Monsieur Rico est professeur à l'Université de Nantes. Ses principales publications incluent une multitude d'ouvrages dont peut-on tout pardonner, Leçons sur savoir et ignorer, Leçons sur la paix et plus récemment Études sur l'humain et l'inhumain et Apprendre à philosopher. Il a en outre signé plusieurs ouvrages importants qui concernent donc l'euthanasie, dont Dignité et euthanasie, Philosophie et fin de vie, La tentation de l'euthanasie, en collaboration avec d'autres auteurs, ainsi que Le mourant, et enfin Éthique du soin ultime, en 2010, ainsi que de multiples articles. Il nous entretiendra, sur l'euthanasie et le suicide assisté, question éthique. Monsieur Ricou.
Merci de cette invitation. Avant d'honorer votre demande, monsieur l'animateur, qu'il me soit permis de dire qu'un philosophe, c'est quelqu'un qui, selon la prescription de Socrate, doit toujours essayer de savoir de quoi l'on parle. Et je me réjouis d'avoir entendu tout à l'heure des clarifications qui sont on ne peut plus nécessaires dans ce débat lourd, grave, qui est le nôtre. Je vais arriver à vos questions, mais après un long détour. Le premier détour consistera à dire que ce mot de dignité qui sert en quelque sorte d'étendard, bien souvent à des positions contrastées, mérite lui aussi quand même qu'on s'y arrête. J'ai lu attentivement comment au Québec on avait dans différents travaux évoqué la question et il y aurait deux conceptions de la dignité, une objective comme on dit ici et une subjective. Et les deux ne se rencontrent pas. Et est-ce qu'il faut abandonner la notion de dignité parce qu'elle ne serait plus utilisable? Eh bien, le philosophe ne peut pas dire ça, surtout en présence du professeur Thomas de Coninck, qui est dans la corporation des philosophes celui qui a le plus clairement et le plus, je crois, doctement précisé la chose dans son ouvrage « De la dignité humaine ». Alors je crois qu'on ne peut pas déserter le terrain de la dignité en disant « puisque personne ne s'entend, alors il faut trouver autre chose ». Non, je crois qu'il faut essayer de regarder en face de quoi il est question, comme aurait dit Socrate. J'observe que, d'une part, la conception dite objective est très littéralement celle de la Déclaration universelle des droits de l'homme, celle du 10 décembre 1948, nul ne peut le nier. Cette déclaration met très clairement la dignité en position de fondation de toutes les autres valeurs, de tous les autres droits qui en découlent. Et cette dignité n'est certainement pas subjective, ça on ne peut pas le dire. Elle est nécessairement ce qui est lié à l'humanité dès lors que l'humain est un humain. D'autre part, il est bien vrai que le fait de respecter, d'honorer la dignité de quelqu'un, au sens objectif du terme, consiste à ne pas le réduire en servitude, à ne pas faire quelque chose contre sa volonté. Et donc, la liberté, du moins une liberté bien conçue et bien construite, fait partie, évidemment, de la dignité. Si bien que, moi, ce que je propose, article après article, livre après livre, déposition devant le Parlement après déposition devant le Parlement, puisque je suis sollicité sur ce sujet, ce que je pense, c'est qu'il faut surmonter cette division, l'approfondir. Et je prendrai ici tout simplement comme référence ce que j'ai lu donc dans ce texte qui s'intitule « Mourir dans la dignité » et qui a été proposé par cette commission que Madame Delerue, vous avez dirigée. Et vous dites que ceux qui se réfèrent à une interdiction de l'euthanasie sont du côté de la dignité objective et ceux qui veulent une légalisation de l'euthanasie sont du côté de la dignité subjective. Alors essayons d'y voir clair. Ceux qui sont du côté de la dignité ontologique, comme nous l'appelons dans notre jargon de philosophe, dans la dignité objective, intrinsèque à l'être humain, qui jamais ne peut se perdre, vous dites que c'est le caractère sacré de la vie qui les anime. Est-ce que vous me permettrez de dire que ce n'est pas la formule que j'aurais utilisée? Il n'y a pas, à mes yeux, de caractère sacré de la vie au sens où il y aurait ici un risque de dérive vitaliste, d'une conception qui consisterait à dire qu'il faut tout faire pour prolonger à n'importe quel prix la vie. Cela n'est pas acceptable, et il me semble que la formule exacte devrait être qu'il y a un caractère sacré de la personne humaine, de la vie de la personne humaine, si vous voulez. Mais nul n'est tenu de la prolonger, cette vie, parce qu'au contraire, c'est notre finitude, et il y a un moment où il faut consentir, bien entendu, à la mort qui vient, et où il faut aussi soulager les souffrances, même si ce soulagement devait, on l'a dit tout à l'heure, entraîner un abrégement des jours. Cela est très clair. La protection des personnes vulnérables, l'accessibilité des soins, la solidarité, l'intérêt commun, bien entendu, ça fait partie de la dignité objective. Et dans le tableau qui est dressé de la dignité subjective, on voit émerger l'autonomie morale. Alors bien sûr, bien évidemment, l'autonomie de la personne fait partie de la dignité objective. Je ne vois pas pourquoi on les séparerait. Comme je viens de le dire, la liberté est absolument à préserver. Quelle liberté ? Quelle liberté ? C'est là que commence la difficulté. La liberté dont il est question, c'est la liberté de consentement. C'est la liberté selon laquelle on ne peut pas faire à quelqu'un quelque chose contre sa volonté, contre son gré. Quiconque refuse la médecine a le droit de refuser la médecine. Et on ne peut pas faire intrusion dans le corps contre le gré d'une personne. Et donc cette liberté-là, oui, il faut la respecter. Alors, il y a une drôle de conception de la liberté pour un philosophe, c'est celle qui consisterait à dire « Au nom de ma liberté, vous devez me faire quelque chose ». Non. La liberté, j'y reviendrai tout à l'heure, ne peut pas exiger d'autrui quelque chose, sinon ce n'est plus de la liberté. Nous sommes dans un autre registre. La liberté, c'est bien une notion qui n'est pas de l'ordre de l'expansion indéfinie de mes désirs. Je ne le dis pas en fonction du sujet qui est le nôtre, je le dis d'une façon générale et philosophique. Et cela me paraît très aisé à démontrer dans le quotidien des situations. Je lis ensuite que la dignité subjective, c'est la qualité de vie. Bien évidemment, la qualité de vie fait partie de l'exigence d'honorer la dignité objective. Sinon, on n'y comprend rien. Donc, il n'y a pas de monopole de la qualité de vie d'un côté ou de l'autre. Tout le monde veut la qualité de vie, bien entendu, la meilleure possible, la moins mauvaise possible. La liberté, je viens d'en parler. Alors là, par contre, la performance, maîtrise de tous les aspects de la vie, moi je laisse ça de côté parce qu'en effet, ça ne fait pas partie, je suis d'accord pour dire que ça fait partie de la liberté, ça fait partie de la dignité subjective, ça ne fait pas partie de la dignité objective, dans la mesure où cette maîtrise, elle est d'un autre registre que la dignité. Elle est simplement une manière de dire je contrôle tout. Alors, il faut regarder de plus près ce que c'est que mourir. Mourir, c'est précisément être dans la démaîtrise, c'est-à-dire ne plus pouvoir contrôler la mort qui vient, l'anticiper, c'est-à-dire, on peut toujours l'anticiper, j'y reviendrai dans un instant, l'anticiper, c'est une manière, évidemment, d'encore moins la maîtriser, puisqu'on lui rend les armes avant même qu'elle n'arrive. Voilà ce que je voulais dire en préambule, qui a déjà pris un peu de temps, et je voudrais tout de suite enchaîner sur justement ce dont il s'agit ici en termes de liberté. La première question que les parlementaires m'avaient posée, elle m'avait surprise d'ailleurs, lorsque j'avais été auditionné avant que la loi de la fin de vie ne soit votée et promulguée en France, la première question avait été la suivante. Qu'est-ce qu'un philosophe pense du suicide ? Nous étions plusieurs, il y avait André Comte-Sponville en particulier qui s'exprimait, il a donné son point de vue et j'ai donné le mien qui n'était pas tout à fait le même. J'ai dit ceci, le suicide, c'est une liberté. C'est une liberté, il y a eu des temps où c'était un interdit, c'est une liberté, c'est-à-dire une possibilité, une éventualité, qui n'est pas punissable moralement, parce que tout simplement, je m'interdis en tant que philosophe de sonder les reins et les cœurs, et je ne sais pas ce qui est à la base de cette décision énigmatique, mystérieuse, qui fait que quelqu'un se suicide. Il y a du mal-être, il y a du malaise, certainement, ou il y a peut-être une volonté délibérée de s'en aller, mais je ne juge pas cet acte et je ne vois pas au nom de quoi je le condamnerais moralement. C'est une liberté en ce sens. S'agit-il d'un droit ? Ah, j'ai répondu qu'ici, la chose était infiniment plus compliquée. Parce que si je dis que le suicide est un droit, ça n'est plus une liberté au sens d'un acte individuellement assumé. C'est un droit, c'est-à-dire que ça implique quelqu'un d'autre, un tiers. Ça implique des proches, ça implique une association éventuellement, comme celle qui est en Suisse, ça implique le corps médical, ça implique surtout le corps social et ça implique les vivants qui restent. Et donc, ça ne peut pas être un acte purement individuel au sens subjectiviste du terme. Et donc, philosophiquement, je crois que aucune société ne peut dire que le suicide est un droit. Même en encadrant ce droit, il y a ici des objections qui sont théoriques avant même que d'être éthiques. C'est-à-dire qu'une société qui dirait « vous avez le droit de vous suicider » devrait donc donner les moyens de se suicider, en vérifiant évidemment un certain nombre de choses, mais là on change de registre. Et lorsque la loi a été évaluée chez nous en 2008, d'autres auditions ont eu lieu, et en particulier des juristes, président de la Cour de cassation, Robert Badinter, ancien ministre de la Justice. Et j'ai lu, évidemment, avec beaucoup d'attention, j'ai lu ce qu'ils disaient, et ils ont dit la même chose. Ils ont dit, mais la construction de notre système juridique ne tiendrait pas, ne tient pas bien, si, justement, l'aide au suicide est considérée comme allant de soi, même dans certaines situations. Et Robert Badinter, hein, qui est chez nous un sénateur aujourd'hui très respecté, il a été ministre de la Justice dans les années 80, ministre de François Mitterrand, et c'est un des plus déterminés pour dire que notre loi telle qu'elle est aujourd'hui faite est une bonne loi, bien équilibrée, et qu'il faut au moins 20 ou 30 ans pour l'évaluer. Quand on voit les difficultés qu'ont les médecins à s'approprier dans notre pays, on se dit qu'en effet, Robert Badinter, en sage qu'il est, n'a pas forcément tort. Et lui sait aussi de quoi il parle, et ce sera le dernier point que je voudrais évoquer. Dans quelle démocratie vivons-nous ? Robert Badinter, en 1981, alors que tous les sondages d'opinion disaient que les Français étaient partisans du maintien de la peine de mort à plus de 70%, a eu le courage politique d'aller contre la démocratie sondagière et a considéré que non, il ne fallait pas suivre ici ce que disaient les sondages et qu'il fallait faire un acte d'authentique politique. C'est-à-dire que ce n'était pas le suivisme du législateur, du gouvernant, qui devait être sa vertu, c'était au contraire la décision raisonnée d'aller dans le sens d'une diminution de la violence, qui est toujours, parce que c'est toujours une violence évidemment d'avoir exécuté quelqu'un. Et je fais l'hypothèse que si Badinter est aujourd'hui chez nous aussi hostile à une ouverture au droit de faire mourir quelqu'un, c'est que précisément il considère qu'une société se grandit et s'honore quand elle n'inscrit pas la violence. C'est toujours une violence, même si elle est accompagnée d'apparente tendresse dans ces textes. Alors, disant cela, je ne fais que restituer, si vous voulez, ce qu'est pour l'instant la position française. Je n'ignore pas, parce que c'est la même chose qu'au Canada, c'est même plutôt exactement, c'est plus la même chose qu'au Québec, je n'ignore pas, nous n'ignorons pas, qu'il y a des propositions de loi permanentes qui vont dans un autre sens, qu'il y a un lobbying très, très, très efficace, au point que même, je suis toujours surpris de voir que les associations qui accompagnent les fins de vie, chez nous, n'ont pas beaucoup de militants. 4 fois moins qu'en Grande-Bretagne. Et par contre, les associations qui militent, non pas pour accompagner les fins de vie, mais pour hâter les fins de vie, elles ont beaucoup plus de succès, parce que ça répond, je crois, à ce qui a été dit tout à l'heure. Un certain nombre de peurs, d'angoisses. Et ma dernière remarque sera pour dire que la société, ici, elle est concernée, parce que celui qui s'en va, il s'en va, mais celui qui reste, il doit porter l'idée que oui, tu m'as dit que ta vie ne valait pas d'être vécue, et ça, il faut l'entendre, bien entendu, mais je t'ai approuvé, moi, société, je t'ai approuvé. Et dans cette approbation qui est donnée à l'autodépréciation d'autrui, il me semble qu'il y a à s'interroger. Parce que, voyez-vous, il y a encore peu de temps, j'expliquais le dossier, mais sans prosélytisme. Là, je viens d'en faire un petit peu, je le reconnais. Mais j'expliquais le dossier, tout simplement, à un public d'étudiants qui était à 80%, comme si on les avait sondés par téléphone, évidemment, c'est ce qu'ils auraient dit. Mais quand on explique le dossier et qu'on prend 3 heures pour l'expliquer, à la fin, ils n'ont pas le même avis. Ils changent d'opinion parce qu'ils se disent, au minimum, je croyais savoir, mais finalement, je ne sais pas. Il y a un nouveau dogmatisme qui s'installe, un peu comme dans notre société, qui, au fond, n'a plus comme référence que l'expansion indéfinie des droits individuels. Cette société-là, elle n'est pas bien si elle dit cela. Si nous ne sommes que dans une coexistence d'atomes qui, chacun... ont des désirs et qui exigent que ces désirs soient honorés, il me semble que c'est le lien social lui-même qui est en grande souffrance. Il y a là quelque chose, je crois, qui fait que le législateur français n'a pas franchi le pas. J'ai dit que ça transcendait les clivages. Chez nous, c'est vrai que la gauche est plus favorable que la droite, mais à gauche, il y a Badinter et il y a aussi le Parti communiste, enfin les responsables du Parti communiste, en tout cas, qui sont sur cette même position, même s'ils sont très divisés. Vous voyez que c'est un débat qui transcende les croyants, les incroyants, la gauche et la droite. J'en ai terminé.
Merci.